Le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Ce lundi, l'Afghanistan se trouve aux mains des talibans après l'effondrement de l'armée afghane qui a permis aux talibans de s'emparer de Kaboul en 10 jours et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur des talibans, a salué la victoire du mouvement islamiste. À présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver. À présent, nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie, a-t-il dit. L'entrée redoutée des combattants talibans a provoqué un vent de panique dans la capitale, où des milliers d'habitants s'efforçaient de fuir, s'agglutinant notamment à l'aéroport où des scènes de chaos ont été rapportées. Les forces américaines ont tiré en l'air ce matin à l'aéroport de Kaboul où des milliers d'Afghans ont envahi le tarmac, a rapporté un témoin. L'armée américaine a sécurisé ce lundi l'aéroport où a été regroupé tout le personnel de son ambassade dans l'attente d'être évacué, a annoncé le porte-parole du département d'État, Ned Price. Parmi les personnes à évacuer à l'aéroport de Kaboul, on compte aussi des employés locaux de la mission américaine à Kaboul et leurs familles, ainsi que d'autres Afghans particulièrement vulnérables, note-t-on. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui sur l'Afghanistan. Le président Joe Biden a défendu hier sa décision de mettre fin à 20 ans de guerre. Son prédécesseur Donald Trump a lui fustigé, je cite, « l'une des plus grandes défaites dans l'histoire américaine » et a appelé M. Biden à démissionner. Le secrétaire d'État Tony Blinken a rappelé que la mission des Américains lors de leur intervention en Afghanistan était de régler le compte de ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre, ajoutant « nous avons accompli cette mission ». Nous aurons dans quelques instants une page spéciale sur l'Afghanistan avec Bagassi Koura et Yacouba Ouédraogo. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a autorisé hier des experts antiterroristes américains à appuyer l'armée congolaise dans sa mission de lutte contre les rebelles ADF, a appris l'AFP auprès de la présidence. En Zambie, l'opposant à Kaine Ichelema, 59 ans, a très largement remporté l'élection présidentielle face au président sortant Edgar Lungu, a annoncé la commission électorale tôt ce matin. Au Mali, 3 soldats maliens ont été tués et plusieurs autres blessés hier dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule près de Menaka, dans le nord-est du pays, a annoncé l'armée malienne. Au moins 10 000 Camerounais ont fui depuis mercredi l'extrême nord du pays en proie à des violences intercommunautaires et ont trouvé refuge au Tchad voisin où les besoins humanitaires sont pressants, a indiqué hier l'ONU à l'AFP. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 13 personnes et en ont enlevé 10 dans 2 attaques distinctes contre 2 villages. Contre des villages du centre et du nord-ouest, ont annoncé hier leurs habitants et les autorités. Un cas de fièvre hémorragique Ebola a été détecté dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, le premier depuis 1994, près de 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie de 2021 en Guinée voisine, ce qui est extrêmement préoccupant selon l'OMS. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé ses concitoyens à adhérer massivement à la vaccination contre le COVID-19 pour atteindre l'immunité collective, seule voie de salut dans la lutte contre cette pandémie. Le pass vaccinal entre en vigueur ce lundi à New York, la première grande ville américaine à l'avoir annoncé. Une preuve de vaccination sera exigée pour se rendre dans un certain nombre de lieux fermés, tels que les restaurants, les salles de spectacle ou de sport. Le puissant séisme qui a durement éprouvé Haïti samedi a fait près de 1 300 morts et 5 700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays ou à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations avec, pour commencer, notre page spéciale sur l'Afghanistan, où des dizaines de combattants talibans ont pris le palais présidentiel à Kaboul, clamant leur victoire sur le gouvernement selon des images télévisées. Le président Ashraf Ghani a fui le pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Notre pays a été libéré et les Moudjahidines sont victorieux en Afghanistan, a déclaré du palais un insurgé à la chaîne de télévision Al Jazeera. Les combattants se sont emparés du bâtiment après la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani qui a reconnu que les talibans ont gagné. Monsieur Ghani assure avoir quitté son pays pour lui éviter un bain de sang. Les talibans ont promis qu'ils ne cherchent à se venger de personne, y compris des militaires et des fonctionnaires ayant servi pour l'actuel gouvernement. En 10 jours, le mouvement islamiste radical, qui a déclenché une offensive en mai à la faveur du début du retrait des troupes américaines et étrangères, a pris le contrôle de quasiment tout le pays. Il avait été chassé du pouvoir il y a 20 ans par une coalition menée par les États-Unis dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.
Les opérations d'évacuation des diplomates et autres ressortissants étrangers de Kaboul se poursuivent. Bagasikoura.
Oui, plusieurs centaines d'employés de l'ambassade américaine à Kaboul ont quitté l'Afghanistan, affirme un responsable du Pentagone. Le président Joe Biden a décidé d'envoyer 1 000 militaires supplémentaires en Afghanistan. Cela porte à 6 000 le dispositif militaire à l'aéroport de Kaboul pour procéder à l'évacuation d'environ 30 000 personnes. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, entre autres, ont transféré des membres de leur personnel diplomatique de leur ambassade à Kaboul à l'aéroport avant une évacuation. Le Canada, le Danemark et la Norvège annoncent la fermeture provisoire de leurs ambassades à Kaboul. Pour sa part, la Russie ne prévoit pas d'évacuer son ambassade. Aucune évacuation n'est prévue, soutient Zamir Kaboulov, l'émissaire de Kremlin pour l'Afghanistan. Il explique que la Russie fait partie des pays ayant reçu des garanties de la part des talibans quant à la sécurité de leur ambassade.
Les talibans ont promis qu'ils ne cherchent à se venger de personne, y compris des militaires ou fonctionnaires ayant servi pour l'actuel gouvernement. Pour une analyse de la situation et une suite possible des événements en Afghanistan, Yacouba Ouedraogo a joint au Québec, au Canada, Sami Aoun, professeur émérite à l'Université de Sherbrooke.
Puisque l'Afghanistan est un pays assez pluriethnique, pluricommunautaire en quelque sorte. Alors, est-ce qu'on va voir de nouveau une autorité taliban qui a le monopole de la décision ou un gouvernement de partage? C'est le scénario peut-être le plus optimiste. Sinon, il y a une guerre civile qui va guetter l'Afghanistan de nouveau.
20 ans de lutte contre les islamistes en Afghanistan, 2 000 milliards de dollars de dépensés, des milliers de morts aussi dans les rangs des soldats américains de l'OTAN et autres. Est-ce qu'on va dire que cet échec est aussi un échec pour les Américains et l'OTAN?
Oui, certainement c'est un échec en général de se battre en retraite sans nécessairement atteindre tous les objectifs déclarés au moins. Mais il y a un point où il y a un certain succès pour le moment, c'est celui de la bataille contre le terrorisme. On sait bien que Al-Qaïda, par exemple, responsable des actes odieux du 11 septembre, est déjà maintenant dans une situation vacillante. Mais au-delà de cette question de terrorisme, il faut voir si les talibans vont être encore une fois une couveuse des terroristes qui frappent hors les frontières afghanes.
Justement, c'est une situation peut-être imminente.
Oui, certainement. Maintenant, ceux qui connaissent les talibans, surtout dans les appréciations américaines, ils croient que sont plutôt un mouvement nationaliste, islamiste, qui est plus intéressé à dominer l'Afghanistan et non pas nécessairement un terrorisme international. Et il faut aussi dire que peut-être les talibans vont servir des objectifs stratégiques américains. Par exemple, combattre Daesh, qui s'installe maintenant dans quelques coins de l'Afghanistan. On pourrait dire en général que le vide américain serait remplacé par des rivalités, qu'il soit entre des puissances sunnites comme la Turquie et le Pakistan, ou encore avec l'Iran, qui pour le moment, semble-t-il, à préparer le retour des talibans pas des ententes avec des factions et des dirigeants de talibans pour protéger la communauté Hazara, la communauté chiite.
Est-ce que les Afghans qui ne sont pas talibans ne se sentent pas actuellement délaissés?
Certainement. Et surtout les femmes, par exemple, les filles, les collégiennes, les écolières. Alors sur ce point, oui, il y a une trahison presque, plus que délaissement. C'est vraiment écraser tous les acquis des dernières 20 années de l'engagement dans la formation des avocats, formation des médecins, formation des juristes, et créer une société civile plus moderne et plus ouverte.
À quoi faut-il s'attendre en Afghanistan dans les jours à venir?
L'Afghanistan est multiethnique, alors il faut voir comment les Tadjiks vont se préparer à un pouvoir dominé par les Pashtuns, et non pas n'importe quel Pashtun, les Pashtuns des talibans. Même chose pour les Ouzbeks et aussi les Turkmènes et les Hazaras chiites. Alors c'est pourquoi les talibans, s'ils veulent poursuivre ou renouer avec leur politique de domination ethnique et islamiste ultra-conservatrice, il faut s'attendre quand même à des turbulences graves.
Sami Aoun, professeur émérite à l'université de Sherbrooke, joint au Québec. Pour rappel, beaucoup d'Afghans, surtout dans la capitale, et les femmes en particulier, habituées à la liberté qu'ils ont connue ces 20 dernières années, craignent un retour au pouvoir des talibans. Lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 1996 et 2001, ces derniers avaient imposé leur version ultra-rigoriste de la loi islamique. Les femmes avaient interdiction de sortir sans un chaperon masculin et de travailler, et les filles d'aller à l'école. Les femmes accusées de crimes comme l'adultère étaient fouettées et lapidées. Les voleurs avaient les mains coupées, les meurtriers étaient exécutés en public et les homosexuels tués. Les talibans ont maintes fois promis que s'ils revenaient au pouvoir, ils respecteraient les droits humains, en particulier ceux des femmes, en accord avec, je cite, les valeurs islamiques. Mais dans les zones nouvellement conquises, ils ont déjà été accusés de nombreuses atrocités, meurtres de civils, décapitations, enlèvements d'adolescentes, pour les marier de force notamment. Voilà pour cette page spéciale sur l'Afghanistan. Merci à Yacouba Ouedraogo et à Bagassi Koura.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et maintenant les sports avec Élisée Ongpatine.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Basketball à la une avec le mondial féminin des moins de 19 ans. Le Mali finit au pied du podium.
Oui, elles ont visé une médaille, mais la marche était beaucoup trop haute. Les Maliennes se sont inclinées hier lors du match de classement face à la Hongrie pays hôte. Le score 88-67 pour finir quatrième de ce tournoi remporté par les États-Unis. Les Américaines ont battu largement en finale l'Australie 70-52 et s'offrent ainsi leur 9e sacre dans la compétition.
Volleyball et direction le Bénin avec la fin hier du championnat national amateur.
Et c'est Boycon qui a abrité la phase finale de cette année qui a vu les clubs venus du Septentrion dicter leur loi. D'abord, chez les dames, ce sont les Buffs du Bogou qui ont dominé en finale Énergie de Porto-Novo 3-7-0, 25-21, 25-14 et 25-19. L'équipe de Parakou n'a pas pu réaliser le doublé puisque battue au niveau des hommes par Dynamique de Djougou 3-7-0 également, 25-18, 25-19, 25-20. Grande consécration donc pour le club de Djougou qui, après trois participations, réalise déjà l'exploit. On écoute son entraîneur, Habib Gounama.
C'est ma troisième participation à ce championnat et déjà à trois participations, je suis champion du Bénin. Je suis tellement content que je ne sais au juste quoi dire, quoi. Suite à l'équipe que j'ai présentée, puisque tous ces jeunes ont appris le volleyball par moi. Donc on a commencé du BA, bas, touche manchette, et qu'aujourd'hui on se retrouve champion du Bénin. Je pense que la gloire est à Dieu, quoi.
Un championnat amateur d'un bon niveau pendant que la fédération travaille à faire la promotion de cette discipline, comme nous l'explique Ali Yaro, président de la fédération béninoise de volleyball.
Au niveau de la Fédération Béninoise de volleyball, nous y avons pensé déjà depuis 2 ans à faire les choses sous cette forme-là. Et en temps, les réformes nous ont carrément imposé cette forme de faire la chose. Donc, si bien que tout de suite, certains clubs se sont dégagés pour faire le championnat professionnel. Et nous nous sommes organisés pour que les autres qui n'ont pas pu se constituer en société sportive, comme les îles d'Ajoie, que ces autres-là, on leur offre un autre cadre de compétition qu'est le championnat amateur. C'est ce qui vient de se faire à Boïcon. Et pour ceux-là, justement, qui ont suivi les deux compétitions, à peine on arrive à faire la différence. Au niveau de la fédération, nous avons voulu donner de la valeur au championnat amateur pour que ça ne soit pas le championnat des autres.
Football à présent, et cette annonce de la Confédération africaine de suspendre certains stades lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.
Une annonce qui concerne les stades qui vont accueillir les matchs de qualification pour le Mondial au Qatar. Sur 40 sélections engagées, 8 d'entre elles ne pourront pas jouer à domicile à cause d'infrastructures défaillantes. Il s'agit du Mali, la Centrafrique, la Guinée-Bissau, du Malawi, de la Namibie, du Burkina Faso, le Niger et Djibouti. Et pourtant, ils disposaient d'un délai supplémentaire de 2 mois pour effectuer des travaux après le report de la fenêtre d'éliminatoire de juin à septembre. Ils joueront donc leur premier match à domicile dans un autre pays.
Merci, Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, l'opposition se fissure avec les ralliements de certains cadres au camp du pouvoir. Le dernier à rejoindre le président Ali Bongo est Jean Eguenong, ancien premier ministre d'Omar Bongo. Il avait démissionné du Parti démocratique gabonais au pouvoir en 2009 pour rejoindre l'opposition. Il était depuis 2016 l'un des principaux soutiens de Jean Ping. Davantage de détails avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Je décide ce jour de me déployer ailleurs que dans la coalition pour la Nouvelle République et de me mettre à la disposition de la République et par conséquent de l'État.
Sitôt après avoir pris ses distances avec la coalition pour la Nouvelle République, la décision de Jean Yerndon de rallier le pouvoir continue de susciter des réactions au sein de l'opposition. Claire Newman, une activiste politique, appelle la jeunesse gabonaise à se mobiliser.
On a 2 choix. Ou on boycotte toute opposition qui viendra se représenter en nous mentant, en nous donnant de faux espoirs. Ou la jeunesse élit tout simplement un représentant pour le peuple.
Citons entre autres départ des rangs de la coalition de Jean Ping, ceux de Mukanyi Wangu, Massavala Mabumba et de Michel Munga. René Demezo-Obiang est l'un des premiers teneurs de l'opposition à avoir rejoint le pouvoir. Il salue la décision de Jean Yerndon de rallier la majorité.
Pour noter dans cette prise de position un sursaut républicain, une sagesse nourrie par sa longue expérience au sein du PDG dans l'opposition et au sein de l'État. Je salue et soutiens cette démarche qui cadre avec la politique d'ouverture et d'unité nationale que prône depuis toujours le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba.
Si la majorité au pouvoir n'a pas encore réagi à la nouvelle du basculement de Jean Yerndon, en revanche, Jean Ping, leader de la coalition pour la Nouvelle République, entend bien le faire dans les tout prochains jours, comme on peut le lire sur sa page Facebook. Libreville, Ismaël Obiangze pour VO Afrique.
Les peuples autochtones de forêt dénoncent leur faible implication dans la vie politique nationale au Cameroun. La sous-représentativité de cette communauté, qu'on estime à 10% de la population globale, est telle qu'elle n'a qu'un seul conseil municipal sur plus de 10 000 que compte le pays. Une exclusion qui contraste avec les engagements du Cameroun, signataire depuis 2017 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Le peuple autochtone se limite seulement au niveau des conseillers de la commune. Au niveau régional, il n'y a pas. Sénateur, il n'y a pas. Député, il n'y a pas.
Jeannette Aboua est issue de la communauté des peuples autochtones de forêt. Elle vit à Djoum, à plus de 276 km de Yaoundé, au sud du Cameroun. Elle milite au sein d'une association qui déplore la faible participation des autochtones de forêt à la vie politique nationale.
Quand il s'agit de la politique, on ne nous consulte pas. On n'a même pas d'abord l'information. La semaine passée, les gens de l'ECAM sont arrivés dans ma communauté. Nous, on croyait qu'ils venaient peut-être pour établir les cartes. Après, ils disent que non, ils sont en train d'établir les cartes électeurs. Et sur ce, ils ne prenaient même pas en compte peut-être des âges, des enfants, tout le monde qu'eux, ils trouvaient seulement qui était là. Assois-toi. On veut ton nom. La personne ne connaît même pas. Et c'est comme ça que ça se passe aussi au rendez-vous.
Au Cameroun, les habitants originels de forêt sont les Baka, les Baguili et les Bédans.
J'avais d'abord fait les dossiers avant et notre liste n'était pas passée. On avait échoué ce premier tour-là.
Emmanuel Missolo est l'unique conseiller municipal issu des peuples autochtones de forêt du Cameroun. Il appartient au groupe Baka et a pu se faire une place au soleil après 3 tentatives.
Le deuxième tour, maintenant, je suis entré toujours dans les listes de RDPC. Le comité central a décidé, tous les 3 candidats devaient faire une liste. Dans notre liste, on était au nombre de 7.
Un seul représentant de peuple de forêt dans un conseil régional paraît encore marginal, selon Emmanuel Missolo, conseiller municipal de la commune de Djoum, au sud du Cameroun.
Il y a des représentants qui sont là-bas pour représenter les autochtones, mais ils n'ont pas de voix. Quand il a envie de parler, on lui dit pardon, attends que les vraies personnes parlent. C'est ça qui est le grand problème.
Seuls 3 chefferies traditionnelles de 3e degré des peuples autochtones de forêt sont reconnues au Cameroun. Pas suffisant pour accélérer l'accès à la citoyenneté de cette couche encore vulnérable. Armel François Médé est un Baguili de la localité d'Akom 2, dans la région du Sud.
Le problème se pose sur les actes de naissance. Quand un Baguili a l'acte de naissance, il peut avoir sa pièce de carte d'identité et de carte d'électeur.
Au cours d'une rencontre qui a regroupé 10 associations de peuples autochtones de forêt à Yaoundé, les experts ont souligné la nécessité d'un accompagnement spécifique de ces populations pour une meilleure participation à la vie politique. Armel Ngono, du Centre pour l'environnement et le développement.
C'est de retourner justement à la base, telle que le prévoit la déclaration des Nations Unies en faveur des peuples autochtones, et d'améliorer leur participation au travers de leur instance propre de prise de décision.
La loi électorale prévoit la prise en compte des différentes composantes sociologiques lors de l'élaboration des listes de candidats au scrutin. Sans toutefois préciser les quotas réservés, par exemple, au peuple autochtone de forêt. Emmanuel Juntap Yaoundé, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Tchad, les membres du comité d'organisation du dialogue national inclusif sont connus. Un décret du premier ministre de la transition, Albert Paimi Padake, donne la composition de l'équipe de 70 membres qui aura la charge de préparer la tenue du dialogue national prévu pour les mois de novembre et décembre 2021. Mais déjà des observateurs dénoncent la configuration de ce comité. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
3 anciens opposants d'Idriss Déby font partie de ce comité d'organisation dont Salé Kebzabo, chef de l'UNDR, il en est le vice-président. D'autres opposants estiment que leurs exigences n'ont pas été prises en compte et refusent d'y entrer.
En premier lieu, la modification de la charte pour permettre de définir quel est le cadre du dialogue. Même aujourd'hui, le dialogue inclusif est devenu un terme générique qui ne dit absolument rien et qui permet maintenant à la junte de l'utiliser de manière abusive pour des fins inavouées.
L'opposant Yaya Dilo, pour lui, vu la composition de ce comité, le dialogue ne sera pas différent des forums organisés sous le régime du président Defin.
80% de la composition sont des caciques du MPS et les 20% qui restent sont aussi des personnalités qui étaient même les chefs d'orchestre de la machine de la fraude électorale. Alors, en quoi cet organe peut garantir la tenue d'un dialogue transparent, crédible et qui va intégrer l'ensemble des forces vives de la nation, puisque c'est ce comité-là qui va sélectionner de manière orientée par le CMT les différents participants à ce dialogue.
Malum Yoboïdé, porte-parole de 43 partis politiques de l'alliance avec le MPS, le parti du feu président Déby, ne partage pas cet avis.
Moi qui vous parle, je suis aussi membre de ce comité, mais ce n'est pas les membres qui feront que ce dialogue réussisse ou ne réussisse pas. C'est le débat, il faut attendre les assises. Aujourd'hui, le MPS en tant que parti politique se pose même la question, parce que les propositions du MPS ne sont pas prises au grand complet. Donc, ceux qui se mettent à critiquer ce comité, moi je crois que non, ils sont tellement pressés. La présence de quelques caciques de l'opposition en dit quand même beaucoup de choses. On ne peut pas associer tous les 16 millions de Tchadiens à ce comité.
5 députés siègent au comité d'organisation au nom du Conseil national de transition. Docteur Sita Kiyombatina, béni juriste et ancien chercheur, dénonce cette pratique.
Aujourd'hui, on vient carrément de trouver même des hommes pour nommer même déjà à la place du CNT qui n'est jamais mise en place encore. Comment on peut même institutionnaliser la tricherie dans un texte de droit? On va vous dire, oui, ces gens-là, ils représentent peut-être l'Assemblée nationale. Mais où est cette Assemblée nationale aujourd'hui? Elle a été dissoute. Et même si c'est l'Assemblée nationale, pourquoi on ne met pas le nom de l'Assemblée nationale? Puisque le CNT n'existe pas juridiquement parlant. En principe, on devrait saisir le juge administratif pour faire annuler, n'est-ce pas, tous ces textes qui sont des textes absurdes.
Malom Yoboïdé, porte-parole de 43 partis politiques de l'alliance avec le MPS, le parti du feu président Déby, qui a géré le pays pendant 31 ans, estime que c'est la charge de transition actuelle qui donne mandat aux députés de siéger au comité d'organisation au nom du CNT.
C'est cette actuelle assemblée-là qui avait voté le programme politique de l'actuel gouvernement de transition. Et la charte dit qu'en attendant que le Conseil national de transition soit mis en place, c'est l'actuelle assemblée-là qui joue ce rôle. Il faut l'accepter comme tel. Donc sur ça, je crois qu'il n'y a pas de débat à ce niveau.
La Ligue tchadienne des droits de l'homme et l'Union des syndicats du Tchad, deux organisations membres de la coordination des actions citoyennes Wakitama, refusent d'entrer dans le comité. Elles entendent organiser des manifestations de rue pour défendre leur position. André Kodouma Dingar, Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Plus de 420 civils ont été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger, dans des attaques menées par des groupes djihadistes qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir, a affirmé récemment Human Rights Watch. Notre correspondant au Niger, Abdelrazak Idrissa, a interrogé quelques activistes sur ce sujet. Son reportage.
L'activiste Ali Idrissa estime que les autorités nigériennes ne mesurent pas encore la dimension des tueries en série de civils par les groupes armés islamistes.
Ce rapport de Human Rights Watch vient mettre à nu ce que nous avions toujours dénoncé, à savoir que la situation devient de plus en plus grave dans notre pays. Aujourd'hui, les militaires sont de moins en moins visés dans ces attaques et donc pour le gouvernement, peut-être, ce n'est pas alarmant tant que ce ne sont pas les soldats qui tombent. Mais pour nous, leur devoir en tant que d'abord premier responsable de ce pays, c'est protéger le pays et les populations.
La sécurisation des populations civiles contre les attaques des groupes armés passe également, selon le président du collectif des organisations de défense des droits humains du Niger, par la mutualisation des efforts de lutte des pays affectés par le terrorisme.
À l'État du Niger de continuer d'assurer la sécurité des paisibles citoyens et en rapport avec les autres pays qui sont aussi confrontés à la même situation, de créer les conditions pour que les frontières soient surveillées afin que lorsque on frappe dans un pays, que ceux qui viennent commettre ce forfait ne puissent pas se retrouver sur un autre territoire ou vice-versa. Donc je pense que c'est aussi de créer ces conditions pour assurer la sécurité, non seulement des frontières, parce qu'aujourd'hui nos frontières sont trop poreuses, d'assurer la sécurité de nos frontières afin d'assurer la sécurité de nos paisibles citoyens qu'on retrouve souvent dans des champs même pour assassiner. Je pense qu'on doit mettre fin à cette situation.
Ce rapport de Human Rights Watch intervient presque un an après un autre très polémique publié par la Commission nationale des droits humains du Niger sur des exactions sommaires de civils dont des militaires nigériens ont été responsables dans la région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, une zone régulièrement attaquée par des groupes armés djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.